Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h.
Il est 19h, passé de 8 minutes, et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va parler de...
Ah. Alors, on aura d'abord des brèves. Ensuite, on va parler du SNU.
Ensuite, on va parler de la France et de la Belgique qui ont un sérieux problème avec le sexe.
Ensuite, on parlera du harcèlement à l'école.
Ensuite, on parlera des exilés pris en étau.
Et on finira par des brèves du Kurdistan. Et on va commencer par nos petites brèves. Alors, le temps que ça s'installe.
Donc, a priori, c'est moi qui commence. Lundi, on apprenait le décès d'un enseignant de l'université de Dunkerque, oula, j'ai écrit ça, dans un cambriolage. Alors que toute l'extrême droite s'était jetée sur ce fait divers sordide comme la vérole sur le bal clergé, on apprend aujourd'hui que l'épouse a été placée en garde à vue afin de confronter sa version des faits.
Ah bah c'est trop bien parce qu'on va continuer avec l'extrême droite. Et alors que le prêt de quelques 9,4 millions d'euros contracté par le Rassemblement National auprès d'une banque russe réputée proche du pouvoir avait été reproché à plusieurs reprises au parti de Marine Le Pen lors des dernières élections présidentielles, le RN a décidé de rembourser tout d'un coup ses dernières traites avant les élections européennes, très certainement pour éviter d'avoir à se défendre de liens avec Poutine, ce qui fait plutôt tâche en ce moment. C'était sans compter sur un groupe de hackers ukrainiens qui a piraté la boîte mail de Alexander Babakov, oligarque russe mêlant business et politique. Il rencontra Marine Le Pen en 2014, par exemple, dans les échanges mails qui ont été mis à jour. Le haut du panier du Rassemblement National a été mobilisé à l'époque pour gratter du pognon aux banques. Et si le lien donc entre le RN et le cercle de Poutine ne sont plus à démontrer, c'est ces fameuses Babakov leaks qui en apportent la preuve formelle.
Alors, est-ce que vous connaissez le jeu Bruno Demande ?
Non.
Non.
Non. Alors le jeu Bruno Demande, c'est un jeu qui consiste à ce que Bruno Le Maire, ministre de l'économie de la France, demande un truc aux capitalistes, comme par exemple, il s'agirait d'augmenter les salaires. Et du coup, bah, souvent, qu'est-ce qui se passe? Les capitalistes,
ils disent non.
Voilà. Du coup, alors accessoirement, Bruno aurait demandé, mais je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est arrivé ce week-end, Bruno aurait demandé à ce qu'on arrête de dire Bruno demande, parce que ça ne le ferait pas rire. Mais c'est pas grave, parce que nous, on est pas drôle. Et du coup, il y a eu un nouvel épisode. Le gouvernement a annoncé, ce week-end, en grande pompe, enfin c'était plus week-end, mais en début de semaine, en grande pompe, qui comptait autoriser les vendeurs de carburant à vendre à perte pendant 6 mois afin d'amortir la hausse de prix de l'essence. Les stations indépendantes n'étaient pas très chaudes, elles ont même gratté un peu de thunes en échange d'accepter que ce dispositif soit mis en place, parce que pour elles, bah, vendre à perte, comme le seul truc qu'elles vendent c'est de l'essence, bah, ça veut dire pas de rentrée d'argent, voire même des sorties d'argent.
Quoi. Des pertes.
Elles vendent aussi des chips.
Ouais, elles vendent aussi des chips, mais on remarque au prix où elles les vendent, mais je suis pas sûr qu'elles en vendent beaucoup. Enfin bon, du coup, on a appris ce matin que les gens qui étaient visés par cette mesure, c'est-à-dire les grandes surfaces, qui eux par contre utilisent plus le carburant comme un produit d'appel pour que tu viennes dans leur grande surface en particulier et pas dans celle du voisin, ont fait savoir qu'ils avaient pas envie de faire ça. Et du coup, bah, selon pour la lutte contre l'inflation, et Bruno a encore demandé un truc qu'il a pas eu.
Et dans la rubrique No Comment, la Commission européenne a proposé mercredi de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne, rassurez-vous, sous condition, après le rapport d'un régulateur, très certainement proche de Monsanto, estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire cet herbicide controversé. Putain, j'avais dit No Comment, j'y suis pas arrivé.
Et du coup, pour cette dernière brève, faudra pas m'en vouloir, elle est écrite à la main. Donc, passe d'armes lunaires à l'Assemblée nationale qui recevait aujourd'hui les syndicats d'enseignants. Alors que les syndicats faisaient le bilan de la rentrée, manque de profs, promesses non tenues sur les salaires, accueil indigne pour les élèves en situation de handicap, la députée de la majorité, je vous épargne son nom parce qu'ils sont tous oubliables, s'est lancée dans une tirade dénonçant un ton caricatural qui n'honore pas le corps enseignant. Et elle a continué en affirmant qu'il gagnerait à reconnaître quand des avancées sont faites. quelles avancées, on ne sait pas trop. On suppose que c'est... Ah bah non, je vous en parlerai plus tard. Mince, je ne l'ai pas mis au bon endroit cette brève. C'est pas grave. En tout cas, la réunion a continué. Les syndicats enseignants étant apparemment ouverts à se faire marcher dessus. A continué jusqu'à ce que un député FN décide de montrer que, décidément, LREM ou FN, ils partagent le même sens du dialogue. Ce député a continué du coup en déclarant au syndicat, en annonçant aux syndicalistes qu'ils ne devaient pas avoir bien compris où ils étaient. Ça c'est citation. Vous n'avez pas bien compris où vous êtes ici. Et que s'ils souhaitaient être réinvités l'année prochaine, il fallait qu'ils changent de ton et de comportement. Du coup, vous imaginez bien que les profs n'aiment pas trop qu'on leur parle comme eux, ils parlent parfois à leurs élèves, et qu'ils sont sortis de la pièce en claquant la porte.
Et alors, on va parler du SNU.
Ah, et du coup, là, c'est le SNU. Alors, attendez. Voilà. Alors que l'idée avait été écartée par Prisca Thévenot, qui estimait début août qu'il n'y aurait rien de pire que forcer... Il n'y aurait rien de pire, pardon, que forcer un jeune à faire le SNU. Ce serait même contre-productif. Et donc, il semblerait que le gouvernement, par la voix de Prisca Thévenot, encore une fois, ait fini par accepter que sa politique était contre-productive et qu'il se prépare au pire. Du coup, dans une interview hier aux médias bruts, diffusée hier aux médias bruts, la secrétaire d'État à la jeunesse, oui, parce que c'est ça qu'elle est, cette madame Prisca Thévenot, mais en même temps, comme on n'est pas au courant de tous les ministres, enfin bon, voilà. La secrétaire d'État à la jeunesse a déclaré cette fois qu'il fallait que le SNU puisse, alors attendez, je vous cite, être un passage républicain pour toute une génération. Il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, la réalité est de mettre en place toutes les modalités d'exécution pour qu'au niveau national et territorial, le SNU soit prêt pour être généralisé. Plus loin dans l'interview, elle précise qu'il s'agit d'une obligation qui sera une généralisation. Alors, vous voyez, je me moquais un peu du côté brouillon et du retournement de veste de la secrétaire d'État, mais notez qu'ils apprennent quand même un peu de leur nullité crasse et que du coup, la déclaration d'hier, elle est juste assez floue pour leur permettre de annoncer que le truc sera généralisé, mais de pouvoir faire machine arrière et dire qu'ils n'ont jamais dit ça dans 3 semaines et qu'il n'a jamais été question de rendre le SNU obligatoire. Notez que je serai au lycée, ça suffirait pas à m'empêcher d'être déjà en train de préparer un blocage de mon lycée pour leur faire passer l'envie de vouloir m'embrigader dans leur jeunesse macroniste. On verra ce qui se passe. Et du coup, c'était des brèves à la place, mais je les ai fusionnées. SNU toujours. Une enquête préliminaire a été ouverte pour agression sexuelle aggravée suite à la plainte d'une adolescente participant au SNU. Selon le parquet de Chalon, mais pas Chalon-sur-Saône, mais Chalon en Champagne, dans la Marne, les faits auraient été commis dans le cadre d'un SNU effectué dans un lycée du secteur de Chalon par un encadrant sans antécédent judiciaire connu. Oh, merci. Ce énième problème fait suite à de nombreux autres, et ce n'est même pas la première affaire de violence sexiste et sexuelle, puisque au moins une plainte pour harcèlement avait été déposée en avril dernier. Et quand on voit la difficulté qu'il semble avoir pour gérer une bande de gosses qui rêvent pour la plupart de finir flic, pompier, maton ou militaire, on n'a pas trop, enfin j'ai pas trop envie de voir ce que ça va donner quand il s'agira de gérer le tout venant des ados en crise.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Info.
Alors la France et la Belgique ont deux sérieux problèmes avec le sexe, et on va commencer par la Belgique. Et vous allez voir, franchement, les rétrogrades sont montés au créneau pour pas grand chose, hein, quand même. En Belgique, donc tout d'abord, un décret sur l'éducation sexuelle a fait descendre dans la rue extrême droite et conservateur. Le décret n'est pourtant pas révolutionnaire. Il rend seulement obligatoire 2 heures d'animation en classe, et qui, pour l'équivalent en France de la 6e et de la 2e. Voilà, donc deux fois 2 heures.
4 heures.
Et donc, c'est-à-dire que, on en reviendra plus tard, mais c'est-à-dire qu'en France, il y a ces heures qui sont obligatoires, et vous allez voir que si c'est à peu près le même niveau d'obligation qu'en France, c'est-à-dire que, c'est quasiment pas appliqué. Bien évidemment, tout le microcosme tradit de Belgique s'est agité pour dénoncer, je cite, un lobby LGBT et, je cite encore, ultra-féministe, tout en affirmant que cela va détruire l'autorité familiale. Bon, on passera sur le fait que s'il suffit de 2 fois 2 heures pour détruire leur fondement familial moisi, c'est que leur socle ne reposait pas sur des bases bien solides. Hein, croire en Dieu, c'est vrai que c'est pas terrible. Dans ce gloubi-boulga de réactionnaires, on retrouve des têtes connues de notre côté de la frontière. Bien sûr. Alain Escada, là, vous voyez, c'est le président belge, alors lui, il est belge, mais de Civitas, association fraîchement dissoute, qui sévit également en France. On a également Carl Zéro, qui s'est trouvé comme nouvelle passion après la télé de montrer au grand public que les élites en tout genre protègent des réseaux pédocriminels, nouvelle lubie des conspirationnistes, et le rappeur Rof qui a relayé une pétition contre ce décret tout en affirmant qu'on enseignerait la propagande et la pénétration à des enfants de 9 ans. Bon, c'est vrai qu'il aurait dû se limiter au titre Turbo Diesel Sport qui était pas mal à l'époque. Les réactionnaires ne sont pas qu'en France, mais leur soutien hein, en général ne tarde pas à arriver. Bon, et ben du coup, on passe par la France. Et alors que le projet de loi SREN, alors SREN, c'est pour sécuriser et réguler l'espace numérique, pointe le bout de son nez à l'Assemblée, projet de loi dénoncé notamment par la Quadrature du Net, le gros cheval de Troie de ce projet de loi, c'est la restriction à l'accès du porno des sites porno aux mineurs. Vous voyez, c'était un peu un branle-bas de combat. Je crois que Manon l'avait annoncé lui-même pour dire que ce n'est plus possible que les mineurs aient accès au porno.
Qui l'avait annoncé?
Qui est Manon?
Macron,
j'ai dit quoi?
Manon.
Emmanuel Macron, pardon. L'objectif annoncé, donc empêcher l'anonymat sur Internet pour réguler notamment les sites porno et les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que déjà mettre les deux dans le même truc, ça commence à être un peu compliqué. Sauf que derrière ça, on voit bien la tournure que vont prendre les choses. Déjà dans le projet, on trouve des moyens pour contourner l'étape judiciaire et la remplacer par une simple étape administrative. Par exemple, pour bloquer un site porno qui ne vérifierait pas l'âge de son visiteur ou de sa visiteuse, l'autorité n'aurait plus besoin de passer devant un juge, l'ARCOM, qui est, on le rappelle, la fusion entre Adopi et le CSA, ce qui fait que, par exemple, nous, notre radio est soumis à l'ARCOM, par exemple, pourra prononcer cette censure. Et c'est qu'une fois la décision de l'ARCOM appliquée que le site pourra, bien sûr, contester la mesure devant un juge et là prendre du temps. Le projet va encore plus loin puisque dans une volonté affichée de lutter contre les arnaques, parce qu'on sait qu'Internet c'est rempli d'arnaques, on le sait, l'article 6 du projet de loi impose aux fournisseurs d'accès classique, aux fournisseurs du nom de domaine, donc c'est les DNS là, vous voyez, c'est bref, quand vous tapez une adresse sur votre moteur de recherche, bim bim, hop, c'est renvoyé à un espèce de gros serveur qui en général est lié au fournisseur d'accès, mais vous pouvez changer ce truc-là dans vos paramètres et aller vers un fournisseur d'accès indépendant. Bref, ça oblige, ça contraint aussi ce gros fournisseur-là. Mais également, et ça c'est un peu la nouveauté, ça contraint également les navigateurs web comme Firefox, Chrome, etc. de censurer, donc de bloquer les sites que la police aurait identifiés comme étant des arnaques. Tranquille Emile, les flics auront tout le pouvoir de bloquer à peu près n'importe quel site en disant « Ah, ce site est un peu louche » ou « En tout cas, il nous semble qu'il peut y avoir des fraudes dessus ». Voilà. Et pour l'instant, on imagine que comme d'habitude dans ce genre de projet, le législateur va demander de préciser les termes de la fraude, donc ça va être très restreint. Et puis à un moment, il y aura un fait divers quelconque et puis on va pouvoir étendre le champ d'application de ces trucs-là. Bref, on aura à des moments plus l'occasion de revenir en détail dans tous les articles de ce projet de loi. Mais pour reprendre la conclusion de la Quadrature du Net, je les cite, s'il fallait résumer le projet de loi SREN, nous pourrions le présenter comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Régulé par la censure, l'autoritarisme et les atteintes massives aux droits fondamentaux n'est pas la bonne solution. Bon, c'est vrai que c'est pas la bonne solution, mais on peut dire que quand même ce gouvernement en est quand même plutôt habitué. Par ailleurs, un texte conjoint entre la Quadrature du Net et Acteurs Paris dénonce cette censure des sites pornographiques et la volonté de casser l'anonymat, pardon, via la procédure de vérification de l'âge. Alors, pour les deux associations, ce n'est pas l'interdiction, mais par l'éducation à la sexualité que cela doit passer, et ce n'est pas en censurant donc les sites porno que les mineurs auront accès à une information de qualité sur la sexualité. Et donc le texte rappelle que seuls 15% des élèves a pu bénéficier des trois séances d'éducation à la sexualité, pourtant obligatoire depuis 2001. Récemment.
On y revient, du coup.
Ouais, c'est ça.
Ça fait une boucle, ton truc. Ah là là.
Tac, tac, tac. C'est bien organisé. Récemment, rappelle le texte, SIDAction, le planning familial et SOS Homophobie ont saisi la justice pour faire appliquer la loi. Et pour ces associations, je les cite, l'éducation à la sexualité, c'est donc moins de grossesse non désirée, moins d'IST, moins de VIH, moins de violences sexistes et sexuelles, moins de discrimination et de violences LGBTI-phobes, plus de consentement, plus de comportement responsable, plus d'autonomie, plus de respect de soi-même et de l'autre, plus de confiance en soi, plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Constat partagé par la défenseuse des droits. La loi SRE ne résoudra rien. Personne ne peut s'imaginer que tout ce que je viens de citer pourra être résolu par de la censure, mais renforcera encore plus le contrôle sur Internet.
Canu Info. Du mercredi.
Et ça fait un peu le lien avec l'info d'après, parce que dans les trucs de... Parce que là, j'ai beaucoup parlé de l'accès aux sites porno, mais...
C'est super bien fait, ton truc.
C'est
ah ouais, tac, non, mais tac, on voit que t'as réfléchi ton fil d'info quand tu l'as fait.
Parce que ça parle pas mal des réseaux sociaux, et donc aussi le harcèlement scolaire. À toi.
Et du coup, moi, je vous parle de harcèlement scolaire. Alors, il vous a pas échappé que, comme tous les gouvernements qui succèdent depuis longtemps, le gouvernement actuel est nul sur la question du harcèlement scolaire. À sa défense, c'est une question qui a pas vraiment de solution facile. Les harceleurs ne font finalement qu'harceler une logique qui, par ailleurs, est largement défendue dans le monde de l'entreprise, par exemple. Et parfois, de reproduire des comportements dont ils ont eux-mêmes pu être largement victimes chez eux ou déjà dans les écoles. Donc, on a un problème difficile. Le problème, c'est que les gouvernements... on a un gouvernement de petits managers. Et c'est donc... difficile pour eux de dénoncer à l'école une logique qui promeut par ailleurs dans la vie courante. Et c'est comme ça que le recteur à Poissy, dans le 92 je crois, a pu trouver tout à fait logique de menacer des parents d'un enfant harcelé de porter plainte contre eux. Alors l'enfant en question a fini par se suicider. Et du coup, alors que l'affaire a commencé à sortir un peu dans les médias et que le ministre avait dit qu'il voulait faire toute la lumière, un courrier du rectorat est sorti par BFM. Courrier où le rectorat menaçait les parents de porter plainte contre... le rectorat menaçait les parents de porter plainte contre eux.
Ouais, c'est assez tordu pour pouvoir...
J'étais pas sûr de ce que je disais. Menaçait les parents de porter plainte contre eux pour diffamation, je crois, s'ils continuaient à dire que leur enfant était harcelé et que les équipes éducatives ne faisaient rien. Voilà. Du coup, le gouvernement, il est pas super bien avec cette histoire. Le ministre a réagi en disant que c'était intolérable. Bon, il se trouve que, a priori, la rectrice qui dirigeait l'académie à ce moment-là, c'est une meuf de la promo de Macron, qui a déjà eu le temps d'aller pantoufler cet été, pour vous dire, elle est toujours à des postes où elle pourrait nuire, c'est-à-dire que maintenant, elle dirige des écoles privées. Une espèce de confédération d'écoles privées, j'ai pas bien compris ce que c'était, c'est toujours un peu louche ces histoires. Mais voilà, en tout cas, elle est toujours à des postes de direction, mais cette fois dans le privé. Donc, sachez que, en tout cas, administrativement, il ne lui arrivera rien pour ce courrier. Et du coup, le gouvernement est un peu gêné aux encolures. C'est comme ça qu'on a appris hier en fin de journée qu'une équipe de policiers avait pu débarquer en pleine classe pour arrêter un élève accusé d'en avoir menacé et harcelé une autre. Alors, du coup, après des décennies de déni et de non-réaction des différents gouvernements, le gouvernement a décidé d'être le plus con possible et débarquer avec proviseur et police en plein milieu d'un cours. Donc, a priori, ils ont frappé à la porte. Les flics sont rentrés avec le proviseur. Le proviseur a dit, les flics ont un truc à vous dire. Les flics ont dit, on cherche Monsieur Machin. Monsieur Machin s'est levé. Monsieur Machin, 14 ans, s'est levé de sa chaise, a été voir les flics et, comble de la connerie, ils les ont menottés devant leurs petits camarades. Devant ses petits camarades. Alors, j'imagine que vous allez largement en entendre parler, vu que ça fait un peu un scandale, tous les enseignants sont vent debout, mais on notera quand même que ce gouvernement confond comme à son habitude autorité et violence, et qu'Olivier Véran assume à 100% que c'est comme ça qu'on sortira face au fléau du harcèlement. C'est comme ça qu'on protégera aussi nos enfants, il a déclaré. Alors du coup, il faut croire que pour lutter contre le harcèlement, le gouvernement a fait le choix de la violence éducative. Je suis pas très convaincu de la méthode.
Et on va se faire une petite pause musicale. Et on va s'écouter MIA avec Borders.
We them smartphones don't beat them. slowly, then we don't need to kick them. This is no south, east, and western. Yeah, guns, blows, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no south, east, and western. Queen, what's up with that? Killing it, what's up with that? Slaying it, what's up with that? You go, what's up with that? Being they, what's up with that? Making money, what's up with that? Breaking internet, what's up with that? Love wins, what's up with that? Living it, what's up with that? Being there, what's up with that? Guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. We representing peeps, seven players on the act. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do.
Ben c'est à moi, je suis bête. Je vais t'es personne. Non, je te voyais devant ton téléphone, je me dis ah c'est à toi, mais non c'est à moi en fait.
Oui c'est à toi.
Très bien. Alors et ben vous avez forcément entendu parler des arrivées de bateaux sur l'île de Lampedusa et tous les délires xénophobes qui a touché à ces arrivées là. Et si on se casse, il est bien difficile de définir une raison sur ces arrivées rapprochées ces derniers jours de bateaux sur l'île de Lampedusa. Un article du Monde a au moins le mérite de décaler un tout petit peu le focus et d'aller voir du côté du départ des exilés, et plus précisément en Tunisie, où depuis plusieurs mois le gouvernement tunisien a lancé une campagne extrêmement raciste à l'égard des exilés, et depuis quelques temps déplace les personnes qui ont été arrêtées près de Sfax, notamment, vers les principaux points de départ vers l'Italie. Donc forcément, le journal s'interroge de si l'Italie ne pousserait pas les exilés à quitter la Tunisie via les embarcations pour rejoindre l'Italie. En tout cas, c'est un peu toujours ce jeu. Enfin, ça a déjà été le cas au Maroc. Ça avait été reproché au Maroc il y a quelques temps. Bref, les exilés sur leur parcours sont toujours un peu soumis à ce genre de pression, dépression diplomatique entre ceux qui veulent les voir partir et entre ceux qui ne veulent pas les voir arriver, souvent. Donc voilà, et donc à ça, donc dans ce climat-là, ça s'ajoute forcément les agressions racistes et xénophobes que subissent les exilés en Tunisie, parce que forcément, quand ton pouvoir remplace, désigne un peu le comme le mal absolu une catégorie de population, et ben il y a forcément une partie de la population qui décide d'aller jouer aux flics et d'aller savater les gens dans la rue. En gros, c'est un peu ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Et donc, si les départs sont donc plus nombreux, c'est sûrement pour ces raisons, mais aussi pour des raisons un peu plus techniques, mais pas moins importantes pour qui veut prendre la route. C'est également une météo plus propice, par exemple, à prendre la mer et le cours du départ qui a également fortement baissé. Par exemple, on est quand même passé à 1500 dinars, ce qui équivaut à 500 euros. On était à 2000 euros sur d'après les ONG en Tunisie, sur en gros sur la moyenne de 2022, parce que ça varie en fonction de plein de raisons. Et c'est donc le coût a baissé, par contre le risque a largement augmenté, notamment parce que les personnes se fournissent avec des bateaux beaucoup moins chers, en genre des espèces de petites coques de noix en métal qui sont beaucoup moins chères
en métal.
Ouais. Mais qui sont beaucoup moins solides, du coup avec beaucoup plus de risques de chavirer. Voilà, bon, c'est un peu toujours l'équilibre un peu glauque qui se passe.
Et
non, on s'était dit qu'on écoutait une petite musique juste avant.
Ah oui.
Juste avant ta chronique, on va la passer.
Après cette jolie petite chanson de générique qui propose d'aller dans la montagne parce que la montagne va te protéger, je vais vous parler un petit peu de quelques petites nouvelles du Kurdistan. Alors samedi dernier, pour l'anniversaire des 1 an de la mort de Jina Amini, ou Mahsa Amini, le prénom Jina étant le prénom kurde donné par ses parents et Mahsa étant son prénom officiel iranien, puisqu'il est interdit en Iran de donner un autre prénom qu'un prénom iranien. Le meurtre de cette femme par la police des mœurs avait, on s'en souvient, donné lieu à des mois de révolte populaire qui avait failli faire tomber le gouvernement. Sans parler de la répression, caractérisée par la mort, la disparition et l'emprisonnement de centaines de personnes, notamment dans les régions habitées par les Kurdes, origine de Jina Amini. Samedi dernier donc, alors qu'avait lieu à Paris l'inauguration d'un parc nommé Mahsa Jina Amini, alors que la communauté kurde et ses soutiens scandaient le prénom Jina, des royalistes iraniens ont essayé d'empêcher les soutiens de crier ce prénom et ont agressé plusieurs des Kurdes présents sur place. Ensuite, vendredi, 3 combattants de Kurdes des YPJ, unité de protection des femmes, ont été la cible d'une attaque de drones coordonnée par la Turquie. Elles faisaient partie du conseil militaire féminin de Manbij et jouaient donc un rôle d'importance dans la défense du Rojava, parti kurde de la Syrie, qui, après avoir vaincu Daesh, est la cible d'attaques incessantes du gouvernement turc. Le gouvernement turc qui essaye de détruire l'organisation horizontale et égalitaire mise en place par les révolutionnaires kurdes dans le nord et l'est de la Syrie. Voici un extrait du communiqué officiel des YPJ dénonçant ces assassinats. Je vous le lis tel quel. Une partie en tout cas. L'État turc cherche à étouffer toute voix qui s'élève pour la liberté et la démocratie par ces attaques généralisées. Les YPJ ont été un bouclier contre ces attaques depuis le début de la lutte. Nous avons perdu des centaines de camarades dans cette lutte. Ce fait a ouvert les yeux de toutes les sociétés qui aspirent à la liberté et à la justice. En luttant contre l'État islamique, les YPJ sont devenus l'expression de l'esprit des femmes qui sacrifient leur existence pour l'humanité. Mais ces femmes courageuses sont attaquées par un tyran nommé Erdogan qui est hostile à la volonté et à l'existence même des femmes. Lundi, à Erbil ou Evler en kurde, ville du Kurdistan du Sud, située au nord de l'Irak, un homme armé a attaqué le bureau du KNK, tuant notamment le représentant de cette organisation. Le KNK, Congrès National du Kurdistan, est une organisation fondée en 1999 et constituée de différents mouvements et partis politiques kurdes des différentes parties du Kurdistan, visant à promouvoir et consolider la collaboration entre les différentes tendances du mouvement kurde. Leur siège est situé à Bruxelles. Alors si on ne connaît pas encore l'identité de l'assaillant, il ne fait presque aucun doute que celui-ci ait été envoyé par le MIT, acronyme désignant les services secrets turcs. Le même jour, lundi donc, un drone venant de la Turquie a bombardé l'aéroport de Souleymaniye, toujours au Kurdistan Sud, nord de l'Irak donc, tuant au moins 3 membres des unités antiterroristes de l'UPK, Union Patriotique du Kurdistan, qui font partie des forces de sécurité légales et officielles de la partie autonome du Kurdistan irakien. Ce qui est étonnant dans cette attaque, c'est que lorsque la Turquie frappe en Irak, c'est généralement pour attaquer le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, avec l'aval du PDK, Parti démocratique du Kurdistan, autre force de sécurité légale de cette partie du Kurdistan, dont le président Barzani est, ces dernières années, devenu proche du président turc Erdogan quand il s'agit d'attaquer les bases du PKK situées au nord de l'Irak. Alors, que s'est-il passé ? Erreur de la Turquie, qui risque d'unifier par ses attaques des forces kurdes qui habituellement ne combattent pas ensemble ? Ou s'agit-il d'une stratégie assumée par le gouvernement turc dont le but est d'éradiquer un maximum de la représentativité kurde ? Ces dernières semaines, on a d'ailleurs vu la diplomatie turque effectuer un gros travail avec les dirigeants irakiens, donnant l'impression de préparer une attaque de grande envergure contre le PKK au nord de l'Irak. Il semblerait qu'elle soit pour l'instant encore freinée par les Américains. Affaire à suivre.
Quitter sur cette musique et nous on se retrouve la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.
gagne info du mercredi. Peut-être gagne info, peut-être gagne info, peut-être gagne info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.